RCF. Le journal de RCF de 7h30, c'est tout de suite et c'est avec vous, Lucie Rispal. Bonjour Lucie.
Bonjour Pierre-Hugues, bonjour à toutes et à tous.
Début de Pessa ce soir, la Pâque juive en Israël.
Alors que le Premier ministre israélien promet de nouveaux coups durs sur le Hamas dans les prochains jours, on en parle en début de journal. Après de longues tractations, les États-Unis ont finalement adopté un plan d'aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars, soit 57 milliards d'euros. Un soulagement pour Kiev, mais à quoi va servir cette aide concrètement? Comment sera-t-elle répartie? Réponse dans un instant. Dans ce journal également, la récolte d'abricots sera en baisse cette année. Les arboriculteurs de l'Ardèche et de la Drôme ont perdu une grande majorité de leurs fruits à cause des fortes pluies des derniers mois. On en parle dans un instant.
Benjamin Netanyahou promet aux Israéliens d'accroître la pression militaire sur le Hamas dans les prochains jours.
Oui, il promet aussi de nouveaux coups durs pour le Hamas, tandis que les Juifs d'Israël célèbrent Pessa à partir de ce soir, et ce pendant une semaine. Pessa, la Pâque juive, un moment particulièrement sensible en Israël, en guerre donc depuis plus de 6 mois avec le Hamas. Comme pour le Ramadan, il y a quelques semaines, les observateurs craignent des provocations après les attaques réciproques de l'Iran et d'Israël ces derniers jours. Selon Denis Charbit, politologue à Tel Aviv et spécialiste d'Israël, Pessa peut être l'occasion d'une trêve, mais les Israéliens souhaitent surtout la libération des 130 otages toujours retenus par le Hamas. Écoutez.
Je ne suis pas certain que les considérations religieuses entrent dans l'examen des raisons qu'il y a d'attaquer ou de riposter. Il faudrait pour cela que ce message-là soit entendu également par le Hamas, par le Qatar. C'est vrai qu'il faut bien le comprendre. Ce qui va être pour les Israéliens ce soir le plus douloureux, c'est d'abord et avant tout le fait qu'il reste encore 133 otages entre les mains du Hamas. Il y a même eu une demande qui a été adressée à la Croix-Rouge de pouvoir livrer le pain azim et le vin pour pouvoir célébrer la fête pour ceux d'entre eux qui voudraient ou pourraient le faire. On n'est pas très sûr que la démarche aboutisse, mais en tout cas, ce qui est certain, la question d'une trêve dépasse les volontés des uns et des autres, parce que pour une trêve, il faut être deux. Pour libérer des otages, c'est l'humanité qui doit parler.
En France, pour Pessa, le ministre de l'Intérieur a demandé au préfet d'augmenter la sécurité aux abords des synagogues.
La fameuse enveloppe pour l'Ukraine, finalement adoptée ce week-end.
Après de longues et laborieuses tractations, la Chambre américaine des représentants a finalement adopté samedi un plan d'aide à l'Ukraine de 61 milliards de dollars. Ça représente 57 milliards d'euros. Plan d'aide qui permettra, selon Volodymyr Zelensky, président ukrainien, de sauver des milliers de vies, je le cite. Le soulagement donc pour Kiev, mais que peut concrètement changer cette aide, les explications de Florian Perret.
Le plan d'aide de 61 milliards de dollars contient principalement de l'assistance militaire et économique. Il autorise aussi Joe Biden à confisquer et à vendre des actifs russes pour qu'ils servent à financer la reconstruction de l'Ukraine. Dans le détail, 23 milliards serviront pour l'armée américaine à remplacer les armes et les stocks américains qui partent en Ukraine. Et 27,1 milliards financeront l'achat d'armes par Kiev. Près de 10 milliards de dollars sont également alloués pour une aide non militaire. Cette aide est également un bon soutien psychologique car sur le terrain, le moral des troupes était affaibli avec l'hiver et l'échec de la contre-offensive. Par ailleurs, les Américains envoient un signe aux Européens, celui de continuer à aider l'Ukraine. Les dirigeants de l'UE ont largement salué l'approbation de l'aide à l'Ukraine. Cela envoie un message clair au Kremlin, a dit le président du Conseil européen Charles Michel sur X. La Pologne, via la voix de son Premier ministre Donald Tusk, a également salué cette aide. Elle regrette toutefois le délai dans l'adoption de ce plan d'assistance.
Le procès historique de Donald Trump aborde à partir d'aujourd'hui à New York les accusations contre l'ancien président des États-Unis, ce qui risque de jeter une lumière sur les coulisses de sa conquête de la Maison-Blanche en 2016. L'affaire menace Donald Trump d'une condamnation et d'une possible peine de prison à quelques mois de la revanche dont il rêve face à Joe Biden le 5 novembre. Et puis des roquettes ont été lancées hier soir depuis le nord de l'Irak vers une base de la coalition internationale anti-djihadiste en Syrie. C'est ce que disent les forces de sécurité irakiennes. Il s'agit de la première attaque d'envergure contre des troupes de la coalition emmenée par Washington après plusieurs semaines d'accalmie. 500 jours après le verdict rendu en première instance, le procès en appel de deux proches de l'auteur de l'attentat de Nice le 14 juillet 2016 débute devant la cour d'assises de Paris. Mohamed Graieb et Chokri Chafroud, les deux seuls des 8 accusés de première instance à avoir fait appel, avaient été condamnés à 18 ans de réclusion pour participation à une association de malfaiteurs terroristes criminels. L'auteur de l'attentat, lui, qui avait fait 86 morts, avait été tué par la police le jour même de l'attaque. Le projet de loi fin de vie entame son parcours aujourd'hui à l'Assemblée. La commission spéciale va mener durant un mois des auditions et éplucher le texte et ses amendements. Première sur la ligne, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, qui, selon son entourage, entend se livrer à un exercice de pédagogie. Suivront, entre autres, des représentants du corps médical demain, des cultes mercredi, d'associations jeudi, ou encore des psychologues, philosophes, anciens ministres et parlementaires comme Alain Claës et Jean Leonetti, auteurs de la dernière grande loi sur la fin de vie.
Depuis quelques mois, la belle Emmaüs est en difficulté.
La boutique web d'Emmaüs vend des livres, des vêtements ou des meubles. Elle a vu sa fréquentation baisser. Elle est confrontée à l'ultra concurrence des grandes plateformes comme Amazon, des acteurs du e-commerce au prix toujours plus bas et aux publicités agressives, au point de menacer l'économie circulaire. Maud Sarda, la directrice générale de la belle Emmaüs, demande au gouvernement d'agir pour réguler ces plateformes.
C'est absolument indispensable aujourd'hui que la livraison gratuite soit purement et simplement interdite sur Internet. C'est le cas pour les livres neufs. Depuis quelques mois, la livraison a un minimum de 3 euros, donc on peut tout à fait le faire, visiblement. Donc pourquoi ne pas le faire sur tout type de produits? Les retours ne devraient pas être gratuits non plus. On peut également aller beaucoup plus loin dans tout ce qui est promotion. C'est incessant. Jusqu'à présent, il me semble qu'on devait respecter des moments dans l'année pour faire des soldes. Ça devait se justifier sur des vrais stocks anciens. Donc voilà, revenons un peu finalement à un minimum de morale économique, si on ne veut pas d'ailleurs asphyxier une économie locale, made in France.
On va parler abricots à présent. La récolte sera en baisse cette année.
Les arboriculteurs de l'Ardèche et de la Drôme ont perdu une grande majorité de leurs fruits à cause des fortes pluies des derniers mois. Bruno Darnaud, arboriculteur dans la Drôme et président de l'AOP Pêche et Abricots de France.
Les variétés, si vous voulez, elles fleurissent un peu plus tard dans notre région. Donc ça veut dire que on est un peu plus touché. Et je pense notamment à une variété comme Bergeron, qui est une variété très implantée au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Là, on est très impacté parce que cette variété-là est vraiment tombée au milieu de l'épisode Cévenol. Et on a beaucoup, beaucoup de vergers où il n'y a pas d'abricots sur cette variété-là. Et sur cette fleur de Bergeron, selon les secteurs, ils ont pris plus de 100 mm au moment de la pleine fleur. Donc on a des producteurs qui ont perdu beaucoup. D'autres un peu moins en fonction des variétés qu'ils ont sur leur exploitation. Et au niveau national, on annonce plutôt une récolte autour de 60% de ce qu'on a produit en 2023. Donc on a une baisse significative, mais on devrait pouvoir avoir de l'abricot français en rayon à partir de fin mai, tout le mois de juin, tout le mois de juillet et tout le mois d'août.
Plus de 75% des personnes fragiles ont besoin de soins bucco-dentaires.
C'est le résultat d'un grand dépistage qui a eu lieu dans le Cher. Les chiffres sont similaires aux résidences de Bellevue à Bourges, l'un des plus grands EHPAD de France. Pour faciliter l'accès aux soins des seniors, l'établissement a ouvert un cabinet dentaire depuis deux mois, Guillaume Martin de Guéret.
On ouvre grand, grand, grand et on regarde. Vous avez une dent cassée ici et là aussi. Il vous manque un plombage là. C'est tout ce que je vois pour l'instant.
C'est un dentiste libéral qui consulte un après-midi par semaine dans le cabinet. Il voit des patients qui n'ont pas été chez le dentiste depuis très longtemps.
Malheureusement, les personnes âgées ou les résidents de l'EHPAD, ils ont pas mal de pathologies, que ce soit cardiaque, diabète, tout ça. Donc l'hygiène dentaire, c'est très très important. Les infections dentaires peuvent favoriser des pathologies assez graves plus tard.
Des problèmes dentaires qui peuvent aussi entraîner des troubles de la nutrition chez les seniors, explique Delphine Montois, gériatre à l'EHPAD de Bellevue.
On peut avoir des douleurs qui vont gêner aussi l'alimentation. Ça va être source d'amaigrissement, on va avoir des chutes, on va avoir des infections qui seront plus fréquentes.
Qu'est-ce que vous allez faire ? Je vous explique tout de suite.
Les résidents sont accompagnés à leur rendez-vous par les soignants de Bellevue, ce qui simplifie encore les choses. Véronique Gilbert, directrice de l'établissement.
Une volonté de déployer des professionnels qui permettent aux dentistes de pouvoir effectuer des soins sur des personnes où ils ne pourraient peut-être pas les faire au cabinet de façon aussi facile, parce qu'il ne sait pas accompagner un trouble cognitif. Un dentiste n'est pas forcément formé pour ça. Donc ça facilite largement l'accès aux soins dentaires.
L'EHPAD espère attirer d'autres dentistes pour faciliter encore l'accès aux soins. Depuis le lancement du cabinet, une centaine de résidents a pu consulter.
Reportage à Bourges, Guillaume Martin de Guéret.
Merci beaucoup Lucie Rispal pour le journal à retrouver sur le site internet des radios RCF, rcf.fr.